c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûr de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 19h et vous êtes sur le point d'écouter Secret Livré, votre émission littéraire mensuelle. Alors voilà maintenant 18 épisodes que je vous parle depuis les micros de la radio, 18 heures au compteur que je vous raconte l'histoire de livres qui ont marqué ma vie afin de vous convaincre qu'ils pourraient marquer la vôtre aussi. Dans cette émission, on parle donc de bouquins, mais pas que, c'est toujours plus sympa de s'intéresser à l'histoire avec un grand H. L'histoire de l'époque à laquelle un livre a été conçu, écrit, publié par exemple, prendre la température d'une époque, parce que ça permet de comprendre son art, bien sûr. Et puis parce qu'une heure c'est très long, on parle aussi souvent d'autres livres ici, d'autres œuvres et même d'autres genres. Alors si vous êtes intrigué, bonne nouvelle, tout ce beau programme est à l'affiche pour ce nouvel épisode de Secret Livré. Alors dans l'émission, j'essaye aussi de varier les plaisirs. On a par exemple parlé de romans d'apprentissage, c'était au premier épisode de la saison 1 l'an dernier donc, avec L'attrape-cœur de Salinger. On a parlé théâtre avec Othello. On a parlé d'autobiographie avec A Free Wheeling Time de Suzanne Rotolo, l'ancienne petite amie de Bob Dylan. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va explorer ensemble une veine encore donc inexploitée par ce programme. Il s'agit du polar ou du roman policier, peu importe le nom que vous lui préfériez, le roman qui fait peur, le roman qui perturbe, qui donne envie de laisser les lumières allumées la nuit. Et je parle ici d'expérience, puisque le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien j'ai fini de le lire il y a environ 10 jours, il faisait nuit, j'étais seule, chez moi, dans mon lit. Eh bien j'ai beau avoir 27 ans, et surtout j'ai beau avoir vu le film, donc connaître l'histoire, eh bien j'ai éteint ma lampe de chevet sans poser le pied par terre, de peur qu'on m'attrape bien sûr, et je me suis pas levée de la nuit pour aller aux toilettes, idem au cas où l'assassin souhaite me tuer. En toute logique, l'assassin fictif du roman inventé de toutes pièces donc n'était pas dans mon studio parisien, mais qu'à cela ne tienne, j'y croyais dur comme fer. Ça fait partie du plaisir bien sûr, l'humain aime se faire peur, l'humain aime vibrer, n'est-ce pas? Mais quand on connaît déjà la fin, les romans policiers, les bons, eh bien nous font quand même trembler un peu, c'était le cas avec ce roman, en tout cas pour moi. Ce n'est pas tant la chute qui importe, c'est son déroulement. Trêve de suspense donc, le roman d'aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le célèbre Silence des agneaux. Roman écrit par Thomas Harris et publié en 1988, il est le second d'une trilogie de livres qui tournent tous autour d'un personnage aujourd'hui bien connu, le docteur Hannibal Lecter. Alors si vous ne le connaissez pas, ou que très peu, restez dans cette émission, je vous en parlerai plus tard. Le premier roman de la trilogie paraît 7 ans avant, c'était en 1981, il s'agissait du moins célèbre Le Dragon Rouge, enfin moins célèbre maintenant, et Le Silence des Agneaux, et a ensuite suivi, 11 ans plus tard, en 1999, du livre intitulé sobrement Hannibal Lecter. En allant à Shakespeare et compagnie avant-hier lors d'une promenade, j'ai même repéré dans la section Polar un autre roman de Harris paru en mai 2019 intitulé Carrie Mora. Il n'a rien à voir avec la trilogie ni avec Lecter, donc je n'en parlerai pas, mais si vous êtes intéressé, voilà une petite annonce publique, il vient de publier un autre roman. Alors, Le Silence des Agneaux, donc pourquoi ce livre? Eh bien déjà, c'est un bon roman, voilà. Un bon roman bien écrit, avec des personnages intéressants et une histoire très bien ficelée. Le récit avance, sans donner l'impression qu'il ne s'agit que de l'enquête. La construction psychologique des protagonistes est fine et la narration elle-même est intéressante. Il n'y a pas de narrateur intradiégétique, d'ailleurs il me semble que c'est rarement le cas dans les polars. Il serait en effet plus difficile de donner au lecteur une impression d'ensemble, de le mener dans les méandres d'une enquête, au travers d'un seul regard. Je suis sûre que ça doit exister quelque part, car les règles sont faites pour être transgressées, mais en tout cas, dans le roman qui m'intéresse aujourd'hui, eh bien le schéma classique, dirons-nous, une voie narrative extra-diégétique, c'est-à-dire hors de l'intrigue, mais avec une focalisation interne. En somme, on voit à travers les yeux de tel ou tel personnage, tout en ne lisant jamais de récit avec un « je ». Et puis, le roman, qui est un bon roman donc, est aussi une sorte de testament à un instinct parfois un peu opaque de la nature humaine. On aime vivre des sensations fortes, on aime bien se faire peur, mais aussi on aime bien explorer avec une horreur mêlée de fascination les extrêmes de la cruauté humaine. Les documentaires d'enquête, dont l'un des plus connus peut-être en France en ce moment est celui qui porte sur l'affaire dite du Petit Grégory, eh bien ces documentaires en sont la preuve. Longtemps très imperméable à ce genre de sujet, je me suis trouvée moi-même fascinée par des histoires de tueurs en série ce mois-ci, ne me demandez pas pourquoi. Alors, puisque je fatiguais tous mes amis en parlant, pourquoi ne pas en faire une émission ? Voilà. Pour revenir à nos moutons, Le Silence des Agneaux est un roman destiné à provoquer un certain frisson, et il le fait bien. Et à son tour, il a inspiré un film, film très célèbre d'ailleurs, ayant remporté en 1992 5 Oscars, et surtout les 5 Oscars les plus prestigieux de la cérémonie, c'est-à-dire meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur scénario. On en parlera aussi dans l'émission de ce film, restez donc avec nous. Enfin, on se penchera au cours de l'heure qui suit sur cet instinct voyeur que nous avons tous et toutes, cet instinct qui nous fait ralentir sur la route en cas d'accident, cet instinct qui nous rive à nos écrans devant un documentaire qui raconte l'histoire d'un tueur en série. Un chouette programme donc pour cette fin de semaine. Alors prenez dès à présent vos précautions, glissez-vous sous un plaid qui vous protégera des tueurs, prenez une boisson chaude et laissez-vous porter par Secret Livré et Le Silence des Agneaux. Alors juste à titre d'information, avant que l'émission ne commence, ce programme comprend des éléments de violence sexuelle, de violence physique, de troubles mentaux et de meurtres, des thèmes qui bien sûr sont susceptibles de déranger certains auditeurs et certaines auditrices, à écouter donc avec précaution. Alors pour commencer, comme d'habitude, un mot sur l'auteur. Thomas Harris est né le 11 avril 1940 à Jackson, dans le Tennessee. Il a grandi cependant à Rich, dans le Mississippi, après que sa famille y ait déménagé. On le décrit, enfant, comme étant une petite personne introvertie qui passe la plupart de ses journées à lire. Au lycée, il commence déjà à écrire, inspiré, dit-il lui-même, par les œuvres de Hemingway. En 1964, alors âgé de 24 ans et son diplôme de littérature en poche, il part travailler à Waco, au Texas, en tant que journaliste dans un journal local, le Waco Tribune Herald. Là-bas, il est notamment chargé de couvrir ce qu'on appelle alors les « police beats », c'est en anglais. À l'époque, le manque de technologie pour communiquer entre officiers de police force les voitures à toujours patrouiller autour des mêmes points, qui deviennent des repères dans la ville. Il s'agit donc d'un équivalent plutôt rébarbatif d'une planque, où les voitures stationnent pendant quelques minutes au même trottoir, s'en vont, puis reviennent trois quarts d'heure plus tard. En tant que journaliste, on a vu plus intéressant, c'est vrai. C'est également l'avis de Harris, dont les capacités d'analyse psychologique sont complètement gâchées à ce poste. Qu'à cela ne tienne, il se met à écrire ses propres histoires, dans un style gothique, pour des magazines tels que l'Argosy. Alors l'histoire de ce magazine est intéressante, suffisamment en tout cas pour que je m'y attarde un peu. Tout commence au 19e siècle avec le courant des dime novels, traduction française les romans à 10 centimes. En 1860, aux États-Unis, les éditeurs Erastus et Irwin Beadle décident de lancer une nouvelle série de livres à bas prix et les appellent Beadle's Dime Novels. Rien à voir cependant avec les contes de Beedle the Bard dans Harry Potter. Leur contenu est bien plus terre à terre, du moins au début. L'Amérique, en plein dans l'aventure de la conquête de l'Ouest, est en effet passionnée par les histoires qui mettent en scène les Amérindiens, et le premier livre à paraître dans la série s'intitule, tout simplement, Maleska, la femme indienne du chasseur blanc. Tout un programme. Le récit, écrit par l'écrivaine Anne Stevens, avait déjà été publié auparavant dans un magazine féminin en 1839. Il s'agit donc ici d'une réédition, histoire de donc lancer la publication. Mais le succès retentissant de cette dernière contribue à populariser les dime novels, dont les parutions d'Erastus et Beedle en viennent à établir presque tous les codes, à savoir du contenu mélodramatique, rocambolesque, de préférence un peu vulgaire, avec deux titres. Un premier titre et puis un sous-titre qui crée du suspense tout en annonçant le contenu du livre. Un exemple, je cite « Le trappeur valeureux » ou « Kit Carson à la rescousse, récit de la vie dans les grandes plaines ». Celui-là, il est écrit par Edward S. Ellis et publié en 1874. Alors beaucoup d'informations dans le titre ici, comme il était d'usage dans d'autres genres d'ailleurs à l'époque. Vous ajoutez à ça des illustrations aux couleurs vives et aux mises en scène complètement théâtrales, et bim, vous obtenez un dime novel plus vrai que nature. Alors le genre gagne en popularité du fait de son aspect sensationnel, de son format et de son prix. 10 cm par 16, 10 centimes à l'ouvrage, il est accessible à tous. Il est aussi aidé par le contexte car au moment de la guerre de sécession américaine, dont j'ai parlé en grande largeur dans l'émission sur Wharton à la saison 1, si vous voulez aller écouter ça, eh bien la population est de plus en plus alphabétisée. Au tournant des années 1870 donc, il y a finalement tout un nouveau marché de lecteurs qui n'attendent qu'une chose, se divertir. Alors du côté des critiques littéraires de l'époque, le genre est plutôt objet de mépris. Et le terme « dime novels » en vient à qualifier le contenu plutôt que le format des livres. En gros, dans la langue de Jean-Pierre Coff, c'est de la merde.
Mais c'est de la merde !
Mais si seul l'avis des critiques littéraires comptait, eh bien ça se saurait. Et l'appétit pour les dime novels n'en est absolument pas gâché. Leurs histoires à sensation continuent de croître pendant la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis. En 1896, juste avant le tournant du siècle, donc, un éditeur, Frank Munsey, transforme son magazine pour ados, l'Argosy, en magazine de fiction pour adultes. Et oui, il s'est aperçu que les abonnements duraient moins longtemps chez les jeunes, car ils ont moins d'argent et se lassent plus vite, c'est bien connu. Il est l'un des premiers à tirer profit de la démocratisation d'un papier moins cher, dit pulp, P-U-L-P, un papier un peu marronasse, moins raffiné que les belles pages blanches, et provenant d'un bois moins coûteux pour les imprimeurs. L'Argosy est un peu plus grand que les dime novels traditionnels, il mesure environ 18 cm par 25. Le mot « pulp », littéralement « pulpe de bois », donne son nom donc à la publication dans le langage courant. Et ce nom donne à son tour naissance au genre de la « pulp fiction », mot que vous avez déjà entendu, j'imagine. Le contenu est de plus en plus racoleur, histoire sinistre et sanguinolente qui plaisent évidemment énormément. Entre 1906 et 1907, à titre d'illustration, eh bien le magazine vend 500 000 exemplaires par numéro. Il est encore aujourd'hui considéré par les spécialistes comme un pionnier du genre et appartenant au Big Four des Pulp Magazines, aux côtés des autres magazines Adventure, Blue Book et Short Stories. C'est surtout pendant la décennie 1930 que le genre connaît son plus grand succès. La crise économique de 1929, qu'on connaît tous et toutes, dure une éternité pour les travailleurs pauvres des États-Unis et raréfie les sources de divertissement, évidemment. La radio et les pop sont donc les uniques échappatoires pour toute une frange de la population. Alors, je dis ça parce que c'est assez intéressant de noter que Tocqueville, dans son essai de la démocratie en Amérique, anticipe presque le genre du pulp. En gros, il affirme que sur le vieux continent, ce qu'on appelle à l'époque l'Europe, la culture et l'éducation sont réservées aux classes hautes, privilégiées, et que les classes basses y sont en fait presque par nature indifférentes. Mais pas aux États-Unis, non, 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 pas dans une société entre guillemets socialement perméable, ce sont ces termes, Sa théorie est que, puisqu'en Amérique, tout le monde travaille, car il n'y a pas de noblesse, ni donc d'oisiveté, eh bien, la population allait vouloir des livres, je cite, « facilement produits, rapidement lus, qui ne nécessitent aucune éducation spécifique pour leur compréhension, des livres qui produiront, je cite encore, des émotions rapides ». Il ajoute que « le but des auteurs sera de stupéfier plutôt que de plaire, et d'agiter les passions plutôt que de charmer ». Eh bien, écoute, Tocqueville dans le mille. Bon, sa théorie touche à sa limite, son plafond, dirons-nous, quant à la distinction entre l'Amérique et l'Europe, puisque c'est bien au Royaume-Uni qu'a commencé le genre des dime novels, ils étaient alors appelés les penny dreadfuls, littéralement les horreurs à un centime. Même principe, je ne vous refais pas l'explication. C'est par exemple dans ces ouvrages qu'apparaît le personnage de Sweeney Todd dans les années 1830, un personnage qui a été exploité récemment par Tim Burton dans son film de 2007 avec Johnny Depp. Plus d'un million d'exemplaires étaient vendus par semaine, au top de leur succès pour les penny dreadfuls, une historique donc et un succès très similaire à celui des dime novels. Preuve que les instincts et les passions des lecteurs sont tous les mêmes, de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Résumons donc. Durant l'ère victorienne, au Royaume-Uni, la population s'enthousiasme pour un nouveau courant littéraire, les penny dreadfuls, livres qui contiennent des histoires sordides, écrites et imprimées rapidement, dans le but de faire du chiffre. Le courant se développe aussi aux États-Unis, là-bas on les appelle les dime novels, mais bon, c'est sensiblement la même chose. Les histoires britanniques s'inspirent davantage, elles, du courant gothique, des monstres, des vieilles églises désertées, ce genre de choses, tandis que l'Amérique, de son côté, fait avec ce qu'elle a à domicile, le thème de la frontière et la rencontre avec les Amérindiens. Et puis au tournant du siècle, Frank Muncy change la ligne éditoriale de son magazine The Argosy pour en faire le premier véritable pulp de son ère. Bien des années plus tard, notre cher auteur Thomas Harris écrit lui-même dans l'Argosy des histoires qu'il écrit alors, qu'il travaille en tant que journaliste local au Texas. Harris est donc dès à présent baigné dans une culture de l'épouvante et du crime qui le précède de nombreuses années. Lorsqu'il publie Le silence des agneaux, il a probablement digéré une large partie des codes traditionnels, mais on le verra, il les dépassera dans son roman. Cependant, la littérature n'est pas la seule source d'inspiration de Harris. D'ailleurs, aucun courant littéraire ni aucune forme d'art véritablement ne peut perdurer et évoluer si elle reste résolument auto-centrée et auto-référentielle. Non. Au-delà des livres, Harris a d'autres raisons d'écrire sur le crime. Il devient en 1968 journaliste pour la Société de presse, l'équivalent de notre AFP, un organisme indépendant dont la mission est de faire du reportage dit factuel. D'ailleurs, elle est encore considérée comme l'une des sources les plus fiables d'informations aujourd'hui, car a priori, elle n'a d'autre intérêt que de dire la vérité. Là-bas, notre jeune Harris couvre les affaires criminelles en apportant un éclairage psychologique qui le distingue de la foule. Anecdote amusante, un de ses collègues à l'Associated Press est le journaliste Nicholas Pileggi, dont le livre, sorte de documentaire romancé sur la mafia, intitulé The Wise Guys, est à l'origine du film de Scorsese, Les Affranchis, lauréat d'un Oscar en 90. Très bon tremplin finalement pour qui souhaite obtenir un Oscar, le reportage d'affaires criminelles. À l'AP, comme on l'appelle, Harris trouve l'idée de son premier roman, Black Sunday, dont l'histoire tourne autour d'une attaque terroriste prévue au Super Bowl. Il est publié en 1977 et il rencontre un succès immédiat qui permet à notre cher Harris de se tourner vers l'écriture à temps plein. Cependant, et l'auteur s'accorde avec les autres critiques pour l'admettre, ce roman, eh bien, est un début, une œuvre de jeunesse en quelque sorte. Il reprend alors les codes de la disaster fiction, la littérature catastrophe. Vous savez, c'est ce courant comme les films que moi que je regardais en rentrant de l'école sur M6 avec les avions qui se crachent dans tous les sens, les câbles d'ascenseur fragiles, ce genre de trucs. Dans la liste des personnages, eh bien, ne figure pas encore le docteur Hannibal Lecter, grand anti-héros créé par Harris et qui a fait sa réputation et continue de prolonger son héritage, ainsi que son influence dans le monde de la littérature. Stephen King, ou Stephen King comme on l'appelle plus souvent en France, lui-même un monstre du genre, est un immense fanboy de Harris. Comparant son écriture au fait de, je cite, « passer sa main doucement dans de la soie », il affirme lui aussi que la première parution de son collègue a été écrite, et là je cite encore, avant que lui-même ne sache vraiment ce qu'il essayait de faire. Mais dans le silence des agneaux, Harris sait exactement ce qu'il essaie de faire, et non seulement il essaye, mais il y parvient avec brio.
Secret livré.
Some fish, mama. I'm as hungry as can be. Oh, Lordy, how I wish, mama, you could keep the baby quiet, 'cause my head's killing me. I seen my ex last night, mama, at a dance at Miller's store. She was with that Jackie White, mama. I killed them both, and they're buried under Jenkins' sycamore. Don't you think I'm psycho, mama? You can pour me a cup. If you think I'm psycho, mama, better let them lock me up. Don't hand the dog to me, mama, I might squeeze him too tight. And I'm as nervous as can be, mama, but let me tell you about last night. I woke up in Johnny's room, mama, standing right by his bed, with my hands near his throat, mama, wishing both of us was dead. You think I'm psycho, don't you, mama? I just killed Johnny's pup. You think I'm psycho, don't you, mama? You better let 'em lock me up. You know the little girl next door, mama? I think her name is Betty Clark. Oh, don't tell me that she's dead, mama. Why, I just seen her in the park. She was sitting on a bench, mama, thinking up a game to play. Seems I was holding a wrench, mama, then my mind walked away. You think I'm psycho, don't you, mama? Didn't mean to break your cup. You think I'm psycho, don't you, mama? Mama, mama, why don't you get up? Say something to me, mama. Mama, why don't you get up?
Alors, c'est le moment tant attendu, le moment où on va parler du roman lui-même. C'est ce qu'aurait souhaité Harris d'ailleurs s'il connaissait l'existence de mon émission ou même de Radio Campus Paris. En effet, l'auteur souhaite qu'on le juge, si jugement il doit y avoir, uniquement sur ses romans et non sur ce qu'il a à en dire lui. Il vit loin des caméras, ne donne plus d'interview depuis 1976, ça fait un bail, et même le lieu où il a écrit Le silence des agneaux, un bureau loué au premier étage d'un salon de coiffure, eh bien, le bureau a brûlé depuis. Il ne nous reste à nous, pauvres terrestres, que l'œuvre, et ça me va très bien. Alors attention, ici, spoiler, hein, évidemment, si vous n'avez pas lu le livre et que vous souhaitez le faire, je vous conseille d'éteindre ce programme et de revenir quand ce sera fait. Aux États-Unis, dans les années 1980, un tueur en série glisse systématiquement entre les doigts de la police et de façon de plus en plus inquiétante du FBI. Son modus operandi est toujours le même, il kidnappe des jeunes femmes, toutes avec une large carrure, les garde captives pendant plusieurs jours, puis les tue, les scalpe, jetant par la suite leur corps dans un cours d'eau. Le tueur, surnommé Buffalo Bill, en référence au personnage historique de la conquête de l'Ouest, échappe notamment à Jack Crawford, directeur du département des sciences comportementales du FBI, qui passe donc, on le comprend, un sale quart d'heure en voyant le nombre de victimes augmenter, sans parvenir à obtenir la moindre piste sur l'auteur de ces actes atroces. Au même moment, Clarice Starling, une étudiante à l'académie de formation du FBI à Quantico, près de la ville de Baltimore, dans l'état du Maryland, eh bien, est de son côté en train de réviser pour ses examens. Avec sa meilleure amie, Ardelia, elles font de leur mieux pour arriver en tête de classe et surtout ne pas redoubler, ce qui leur ferait perdre un temps considérable dans la course pour devenir un vrai agent du prestigieux bureau de renseignement américain. Clarice, diplômée en criminologie et psychologie de l'Université de Virginie, eh bien, elle souhaite intégrer le département de Crawford, dont je viens juste de parler, et elle souhaite travailler au sein de ses équipes. Crawford le sait, car elle a suivi un de ses séminaires et l'a brillamment questionné par la suite, faisant impression sur l'homme. Pour Clarice, la surprise est presque totale néanmoins lorsqu'elle reçoit l'ordre de se présenter dans son bureau un beau matin. La mission qu'il lui confie n'est pas liée en apparence avec l'enquête brûlante de Buffalo Bill, néanmoins il s'agit d'établir une immense base de données sur tous les tueurs en série connus des services de police judiciaire. À ce stade, Clarice est intriguée et un peu flattée. Puis Crawford lui demande, la regardant droit dans les yeux, « Avez-vous peur facilement, Starling ?»« Pas jusqu'à maintenant, monsieur, » répond-elle. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'un des profils qui manque à la base de données est celui du docteur Hannibal Lecter, le célèbre psychologue, lui-même tueur, qui dévore ses victimes. Dès le début du roman, donc, dès les premières pages, on a un sens de l'importance de Lecter. Son nom est prononcé avec toutes les précautions d'ordinaire réservées à Voldemort, et Clarice se fige lorsqu'elle l'entend. « Hannibal le cannibale ?» demande-t-elle. C'est bien lui, en effet, qu'elle devra aller interroger, armée seulement d'un petit questionnaire destiné à récolter le plus d'informations possible et d'établir un profil psychologique du tueur. Cela pourra servir à élucider les prochaines affaires, lui explique Crawford. Avant de partir, le directeur insiste auprès de son élève et lourdement. On vous expliquera toutes les mesures en place pour l'interrogatoire de Lecter. N'en déviez pas, jamais, sous aucun prétexte, n'oubliez pas qui il est. Quand Clarice demande « Et qu'est-ce qu'il est ?», la réponse est simple, un monstre. Clarice se rend donc à l'institut psychiatrique où Hannibal Lecter, que tout le monde appelle encore docteur, écoule ses jours depuis 8 ans. Le docteur Frederick Chilton est directeur de cet hôpital psychiatrique situé à Baltimore, la prison en question. Dès l'arrivée de Clarice, il la complimente de façon doucereuse sur son physique, laissant entendre que Crawford l'a chargée de cet interrogatoire afin d'amadouer Lecter, car elle est jolie. C'est la première fois que Clarice est réduite à son genre, il y en aura d'autres. Dans le film, l'accent est mis grâce au cadrage notamment sur le fait que Clarice évolue en tant que jeune femme dans un monde d'hommes, à la fois dans le FBI et dans le monde. Après lui avoir expliqué les mesures de sécurité mises en place autour de la cellule de Lecter, Chilton la laisse faire son travail. Et dès cette première rencontre en tête-à-tête, Harris met à mal les préconceptions de ses lecteurs quant à la nature des tueurs, ou des méchants, puisqu'il s'agit de ça. Lecter est en effet un homme très distingué, qui parle de façon éloquente, se tient bien droit, est très courtois avec Clarice et n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. Au mur de sa cellule sont accrochés des dessins au fusain dont il est l'auteur, dont un du Duomo à Florence. Dans le film, Clarisse lui demande « Et tout ça, vous le faites de mémoire ?» Il répond « La mémoire, c'est ce que j'ai, Jean Starling, à défaut d'une vue. » Sa cellule, en effet, est borgne, mais on comprend rapidement que lui, non, loin de là. Le questionnaire de psychologie est d'ailleurs rapidement rejeté par Lecter, qui le considère comme pratiquement enfantin. « Pensez-vous pouvoir vraiment m'analyser avec cet outil mal aiguisé ?» demande-t-il. Clarisse n'a pas tous les éléments en main à ce stade. Elle ne sait pas que Jack Crawford l'a envoyé voir Lecter afin d'obtenir, de façon détournée, des renseignements sur l'affaire Buffalo Bill. Elle pense innocemment demander à Hannibal une analyse de ses propres déviances en termes cliniques. Mais cela ne lui plaît pas du tout. Il a passé sa vie à disséquer le cas d'autrui, mais jamais le sien. Il se plaît à tourmenter les autres en ciblant leurs points faibles, qu'il identifie d'ailleurs avec une simplicité effarante, mais jamais les siennes. Il finit d'ailleurs par s'énerver et à dire à Clarisse « Un docteur a tenté de m'analyser un jour, vous savez ce qui s'est passé? J'ai mangé son foie avec des haricots et un excellent Chianti. » Clarisse, congédiée par le docteur Lecter, parcourt le couloir bordé de cellules qui l'amène jusqu'à la sortie, lorsqu'un autre prisonnier, Miggs, lui jette, c'est bien, du sperme à la figure par les barreaux. Une humiliation que Hannibal considère tout à fait malpolie et qu'il refuse de cautionner. Il rappelle Starling à sa propre cellule et lui fournit des informations liées à l'affaire Buffalo Bill, car il a deviné que son avancement à l'académie dépendra de la résolution rapide de cette affaire. En gros, il a compris qu'elle avait de l'ambition et qu'il pouvait l'aider ainsi. La courtoisie est au cœur de ses préoccupations. C'est un épicurien qui aime en toute chose la beauté, l'élégance. À la fin du roman d'ailleurs, alors qu'il est parvenu à s'échapper, Ardelia, la meilleure amie de Clarisse, s'inquiète, évidemment pour elle. Mais la jeune femme est aussi futée et elle affirme, je cite, « Non, il ne viendra pas me tuer, je ne saurais pas l'expliquer, mais je pense qu'il trouverait ça mal poli. » Puis au chapitre 15, à la page 112 de mon édition, donc assez loin dans le roman, le personnage de Catherine Martin apparaît. Elle est la fille de la sénatrice Ruth Martin, une femme importante. Catherine rentre chez elle le soir, elle chante à tue-tête au volant de sa voiture, elle est détendue en gros. Dans le film, la chanson qu'elle hurle est « American Girl » de Tom Petty, dont on entend un extrait ici. Catherine Martin ne le sait pas encore, mais quelques minutes plus tard seulement, elle sera kidnappée par Buffalo Bill lui-même et gardée prisonnière pendant 3 longs jours au fond d'un puits dans le sous-sol de sa maison. Le réalisateur du film, Jonathan Demme, choisit cette chanson délibérément. Les paroles sont une ode à l'innocence, à une jeunesse pleine d'espoir pour l'avenir. La courte séquence permet finalement à Demme de mettre 2 choses au clair avec le public. Premièrement, cette jeune femme, qui chante un peu faux dans sa voiture, la radio à fond, est comme nous, qui regardons le film. Elle est instantanément identifiable comme une gentille, une fille cool qui nous ressemble, « the girl next door ». Et, c'est Alexandre Astier lui-même qui le dit, la musique dans les films est omnisciente, elle sait des choses que le public ne sait pas. Deuxième chose, donc, la chanson anticipe ce qui va arriver à Catherine. L'instant suspendu dans la chanson, l'échappatoire, n'est que de courte durée. Bientôt, elle sera captive d'un tueur en série sans foi ni loi. Catherine est donc kidnappée par le tueur dont on ignore encore l'identité. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est bien cette enquête qui est au cœur du roman, mais qu'elle n'arrive finalement qu'assez tard. La première partie du livre est passée à la mentionner, mais sans aucune discussion des preuves ni des victimes. En cela, le livre de Harris diverge un peu de la norme. Je viens de terminer, pour exemple, un roman de Mary Higgins Clark, intitulé « Ce que vivent les roses », et bien l'intégralité de l'œuvre est préoccupée par l'enquête principale. Tous les chemins y mènent. Malgré la surabondance de personnages, ils sont tous et toutes liés à cette même enquête et ont tous et toutes leur rôle à jouer. Dans Le silence des agneaux, Hannibal Lecter, à qui est consacrée une immense partie du livre, n'est pas tout à fait étranger à l'affaire car il connaît l'identité du tueur et il aide Clarisse à le trouver, mais il se trouve bien en périphérie, il n'a rien à voir avec l'enquête, il reste derrière les barreaux tout du long. Bon, et donc Catherine est kidnappée. Le reste de l'enquête se déroule, on trouve des indices, Lecter pousse Clarisse dans la bonne direction sans jamais l'éclairer directement, ce ne serait pas drôle. À la fin, le tueur est retrouvé, il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, James Gumb, qui déteste tellement sa propre identité, sa propre chair, qu'il s'en façonne une autre, avec un costume, attention c'est dégoûtant, fait de peau humaine. C'est la raison pour laquelle il prélève la peau de ses victimes, et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il tue. Ce qui, encore une fois, est assez original. Le meurtrier ne prend pas plaisir à tuer, en tout cas pas particulièrement. Ces meurtres ne sont pas dictés par une haine de la femme, ils ne sont que le symptôme d'autre chose de plus profond. À un moment donné, Lecter, qui je le rappelle sait qui est James Gumb mais ne le dit jamais ouvertement, car il espère pouvoir négocier son transfert dans une cellule grâce à cette information, eh bien, Lecter pousse Clarisse dans ses retranchements. Réfléchissez, agent Starling, que fait-il cet homme que vous cherchez ? Lui demande-t-il. Elle, elle fait les 100 pas devant sa cellule et réfléchit à haute voix. Il tue des femmes ? Faux, ce n'est que secondaire. Quel besoin assouvit-il en tuant ? Je ne sais pas, la colère, l'acceptation sociale, les frustrations sexuelles ? Non, il convoite, lui répond-il. Ce dialogue est intéressant du point de vue de la psychologie du tueur. Harris écrit à une époque encore secouée par l'apparition des tueurs en série, sorte de nouveau concept. Dans les années 70, l'Amérique a tremblé, notamment face à l'affaire Ted Bundy, un homme ayant agressé sexuellement et assassiné violemment un très grand nombre de jeunes femmes. Dans les derniers jours de sa vie, il a avoué environ 38 crimes, mais la police estime le nombre total de victimes à 70. Bundy a fait l'objet de nombreuses analyses, ainsi que d'un film avec Zac Efron et Lily Collins, d'ailleurs assez récent, disponible sur Netflix. Mais surtout, Ted Bundy a fasciné. Il fut l'un des premiers cas médiatisés de meurtrier qui ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Personne ne le soupçonnait. Pendant des années, il a sévi dans plusieurs états américains, partant de Seattle jusqu'à arriver en Floride, semant la panique partout où il passait. Il s'est échappé deux fois, a tenu à se défendre lui-même au tribunal, rejetant les négociations de ses propres avocats qui l'encourageaient à plaider coupable pour éviter la peine de mort. Bref, un cas exceptionnel. Et dans la série de documentaires « Conversation with the Killer, the Ted Bundy Tapes » qui lui est consacrée, on entend Bundy parler des raisons qui pourraient expliquer ses actes. Je cite « Les gens sont obsédés par la notion de cause et de conséquence. » Il pense qu'on peut pointer un élément du doigt, « Oh, son père le battait quand il était petit », ce genre de choses. C'est des foutaises tout ça. Il n'y a absolument rien dans mon enfance qui puisse suggérer que j'étais capable de commettre un meurtre. « Absolument rien ?» lui demande-t-on. « Absolument rien. » Et ça, ça dérange. Regardez n'importe quel film, lisez n'importe quel livre, il y a toujours une origin story aux méchants. Ils ont été malmenés durant l'enfance, ou ils ont été rejetés, ils veulent se venger, etc., etc. L'histoire d'Adolf Hitler en est un exemple parmi d'autres, bien que celui-ci soit historique. Ayant échoué deux fois au concours d'entrée des Beaux-Arts de Vienne, il devient l'un des dictateurs les plus tristement célèbres de l'histoire. Les éléments sont vrais, mais ils font partie d'un récit. Sans doute qu'Hitler avait déjà des idées bien sombres, même avant d'essayer de devenir peintre. Pourtant, on aime en général opposer les deux trajectoires. Hitler artiste peintre, sympathique, et Hitler pas artiste peintre, Hitler homme d'état de l'Allemagne nazie. C'est d'ailleurs la base du livre d'Erich Emmanuel Schmitt, qui s'intitule « La part de l'autre ». Ce livre met en scène la trajectoire fantasmée d'Adolf H., comme il est alors nommé dans le roman. Et ce personnage est un artiste tendre, aimé des siens, meilleur ami d'ailleurs avec une certaine Sarah Rubinstein, Qualifié d'uchronie, c'est-à-dire portant sur une temporalité qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu, le roman est l'illustration parfaite de cette relation de cause-conséquence décriée par Bundy à la fin de sa vie. La « minute qui changea le cours de l'histoire », entre guillemets, c'est un terme employé par Schmitt, le rejet d'Hitler par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, eh bien, c'en est peut-être l'exemple le plus connu. En termes de fiction pure, par contre, il y a un peu plus de marge de manœuvre. On a moins besoin de chercher frénétiquement une explication aux actes monstrueux d'un autre homme, on a moins besoin de croire que ça ne pourrait pas arriver à n'importe qui et sans raison. Dans Le silence des agneaux, il y a bien une raison qui justifie les actes de Buffalo Bill, de son vrai nom James Gum, mais ils n'ont rien à voir avec la frustration sexuelle ou le désir d'être accepté socialement, qui sont en général les motifs tout trouvés au meurtrier en série. Et elle n'est jamais tout à fait explicitée, cette raison, ce qui rend le roman encore plus intéressant, en tout cas à mes yeux. Dans le film, Lecter dit à Clarisse « Notre tueur n'est pas né comme ça. Il s'est transformé en meurtrier à la suite d'années de maltraitance. » Dans le livre, on ne voit guère de traces de cette maltraitance. Ce que l'on voit, en revanche, c'est un ensemble de rituels que James Gum suit avant de tuer. Il s'installe sur son lit avec son petit chien, Precious. Il met la cassette VHS dans le lecteur et puis il regarde, à l'écran, une femme défiler dans le cadre d'un concours de beauté. Il la trouve magnifique et on comprend qu'elle est sa mère. Ensuite, il regarde une seconde séquence sur une autre cassette. Celle-ci n'est pas de sa mère, mais cela ne fait aucune différence à ses yeux. Pour lui, il s'agit de la même femme. Il s'extasie sur ses poses, les reproduit, ému aux larmes, tandis qu'il serre son petit chien de toutes ses forces, ce dernier qui jappe et essaie de s'échapper tant il est pris en étau. En somme, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation de James à sa mère et qu'il a créé à partir d'une scène réelle un personnage sublimé, idéal à atteindre, qu'il n'atteindra d'ailleurs jamais. D'ailleurs, il place dans la gorge de chacune de ses victimes le cocon d'une mythe ou d'un papillon exotique venu d'Asie, l'Acherontia ou Sphinx tête de mort. Son nom vient du motif présent sur le dos du papillon lorsqu'il est éclos et qui ressemble à un crâne humain. Vous pouvez d'ailleurs en voir une image sur l'affiche du film et sur l'édition de mon livre, ce papillon est également intégré par un dessin dans le nom de l'auteur. Lecter explique à Clarisse pendant leur premier échange au sujet du papillon que ce dernier représente le changement. D'abord larve, puis cocon, l'Acherontia se transforme pour devenir symbole de beauté. Comprenant l'allusion à la transformation, Clarisse réplique tout de go qu'il n'y a aucune preuve que les transsexuels soient de nature violente, au contraire. Lecter rectifie son analyse. Non, Gum n'est pas un transsexuel. Par contre, il s'imagine en être un, car il désire ardemment cette transformation qui le rendra beau. D'ailleurs, pendant le tournage du film, le réalisateur Jonathan Demme était inquiet de la façon dont l'acteur Ted Levine, ou Levine, je ne sais pas exactement, qui joue Gum, allait interpréter son personnage. Il ne souhaitait surtout pas faire de Gum un véritable transsexuel, ni même un transgenre, associant cette identité par là même à de la violence ou même à un quelconque déséquilibre mental. Il fallait qu'il soit bien clair que, comme l'affirme Lecter, les meurtres, ainsi que la métamorphose, entre guillemets, en femme, étaient le symptôme d'autre chose. Pour finir, sur l'intrigue elle-même, Clarisse, aidée par Lecter, en vient à la conclusion que Gum est couturier, du moins qu'il a travaillé dans cette industrie, qu'il connaissait sa première victime, Frederica Bimmel, personnellement, et que celle-ci travaillait dans un magasin tenu par une certaine Madame Lippmann. Tandis que de son côté, parce qu'il veut se venger d'avoir été manipulé, eh bien Lecter, alors transféré à Memphis dans le Tennessee, ment sur l'identité de Gum au FBI et à Ruth Martin, afin de les lancer sur des traces erronées. Et à ce moment-là, le livre fait un travail formidable de juxtaposition que le film reprend à l'identique. On voit en parallèle l'équipe de Jack Crawford atterrir dans l'Illinois, à Calumet City, et préparer une intervention de police dans la maison présumée de Gum. Et en même temps, donc en parallèle, on voit Clarisse toquer à la porte de feu Madame Lippmann. Avec horreur, la police s'aperçoit immédiatement en forçant la porte de la maison que celle-ci est déserte. Crawford, tenu au courant par Clarisse de son enquête à Belvedere, chez Lippmann, comprend immédiatement qu'elle se rend chez l'assassin, seule, armée seulement de son arme de service, pour conduire ce qu'elle pense être un simple interrogatoire des descendants de cette femme. Bien sûr, c'est Gum qui lui ouvre. Elle ignore à quoi il ressemble et donc ne se formalise pas, elle pense qu'il est sans doute un descendant de Madame Lippmann. Mais pendant leur courte discussion, un papillon de l'espèce Acherontia vient se poser entre eux. Clarisse comprend tout de suite qu'elle se trouve en présence du tueur. Afin de ne rien laisser paraître, elle continue de le regarder droit dans les yeux. Mais pour Gum, c'est évident, elle sait. N'importe qui d'autre aurait questionné la présence d'un immense papillon de nuit dans l'Ohio. S'ensuit une scène absolument effrayante que j'ai malheureusement lue la nuit, à mon grand regret, au cours de laquelle Clarisse s'engouffre dans le sous-sol de Gum, découvrant des cadavres dans les nombreuses pièces, ainsi que le puits dans lequel se trouve encore Catherine Martin. Les lumières éteintes, Gum la traque avec ses lunettes à vision nocturne, c'est horrible. D'ailleurs, dans une ironie frappante, sans doute voulue par le réalisateur, il ressemble à un insecte avec une sorte de papillon. Gum est à deux doigts de la tuer et de poursuivre son « travail » entre guillemets, mais elle l'entend armer son revolver, se retourne et par réflexe tire la première dans le noir, droit devant elle. Gum tombe, il est mort, Catherine est libérée, et puis elle garde même le petit chien, Precious, drôle de souvenir de son temps passé dans le puits, mais bon. À la fin du roman, Clarisse est diplômée avec honneur de l'académie du FBI et devient agente, félicitée par Crawford. Quant à lui, Lecter est parvenu à s'échapper de sa cellule haute sécurité de Memphis, et on comprend qu'elle s'est mise en chasse de Frederick Chilton, vous savez, le directeur de l'hôpital dans lequel il était incarcéré au début du livre. Petit retour dans le temps, quand Lecter accepte de donner des informations à Clarisse sur Buffalo Bill, il exige en retour d'obtenir des éléments personnels sur sa vie à elle. C'est un peu du donnant-donnant. Elle lui raconte son pire souvenir d'enfance, donc la mort de son père. Et puis elle lui raconte comment, orpheline, elle a été envoyée vivre avec son oncle et sa tante dans un ranch. Comment, une nuit, tandis qu'ils allaient tuer les agneaux pour en faire de la viande, elle les a entendus hurler dans la grange et puis comment elle a essayé de les sauver en ouvrant la grille. Mais ils sont restés immobiles, à pleurer. Lecteur lui dit « Vous vous réveillez parfois, n'est-ce pas, Clarisse? Vous vous réveillez au son du pleur des agneaux. » À la fin du livre, l'enquête finie, il envoie une lettre à Clarisse dans laquelle il demande « Alors, les agneaux ont-ils cessé de pleurer ?» Le film est un peu plus mesquin, mais un peu plus amusant aussi. Lecter, au téléphone avec Clarisse, donc lui dit « Écoutez, j'aimerais rester papoter, mais j'ai un vieil ami à dîner. » À l'arrière-plan, on aperçoit Chilton descendre d'un avion. On comprend qu'il n'est pas invité, mais bien le plat de résistance. Le grand tour de force, comme on dit, du roman, c'est donc de jouer avec les codes, de décevoir l'horizon d'attente du lecteur, tout ça. Hannibal est un meurtrier sans remords, dont le rythme cardiaque ne dépasse jamais les 85 battements par minute, même lorsqu'il est en train de dévorer le visage d'une de ses victimes. Mais il est amusant, intelligent, aimable. Il a même sa propre logique de politesse qu'il applique rigoureusement. Et puis, il aide Clarisse à sauver Catherine Martin.
But I'm a creep. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
En résumé, le roman de Harris est super, vous devriez le lire. Le film est également super et vous devriez le voir. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les deux, mais il ne s'agit pas ici de vous ennuyer, alors je vous laisse sur ce conseil. Et je vous dis au mois prochain pour le 19e épisode de Secret Livré, en espérant vous y voir. En attendant, bonne fin de week-end à tous et à toutes. Bisous.